Chapitre 13. En voyant le visage inondé de sang du jeune étranger, Chichio eut d'abord l'idée de prendre le large comme les autres bandits. L'instinct de la conservation était l'excuse de ce premier mouvement. Mais au bout de 10 pas, il se retourna, et comme il vit le blessé chanceler sur ses jambes, il courut à lui pour l'aider à se soutenir. La blessure paraissait plus grave que Don Zeffirino ne l'avait annoncé. Elle traversait la joue dans toute sa longueur. La lame du fatal Temperino avait pénétré jusqu'à l'intérieur de la bouche, en sorte que le sang coulait, non seulement de la plaie, mais encore des lèvres du malheureux jeune homme. Chichio se mit à pleurer et il appela du secours un grand cri. Une femme sortit enfin d'une maison et apporta du linge et de l'eau. Elle fit asseoir à terre le blessé, lava le sang et posa une compresse sur la plaie. Pendant cette opération, le blessé s'était évanoui.
« Ne voilà-t-il pas un pauvre seigneur bien accommodé ?» s'écria la bonne femme. « Oh, homme, soyez maudit avec votre jalousie et vos vengeances. Défigurez un étranger ainsi. La belle hospitalité, la belle courtoisie qu'on trouve dans notre pays. Est-ce savoir-vivre que de renvoyer un jeune homme à sa famille avec le visage ainsi meurtri ? Que dira sa mère ? Et que pensera-t-elle des Siciliens ? Et toi, petit misérable avec ta chèvre et tes danses, si t'as trempé dans le complot, regarde ces flots de sang afin qu'ils retombent sur ta tête. Regarde cette figure pâle. Et si t'as pas le cœur d'un tigre, grave bien dans ta mémoire ce spectacle pitoyable. Tes remords te le représenteront encore dans 10 ans.
Chichio arma son visage d'un double masque de dissimulation et de fierté.
Je ne sais, dit-il froidement. « Pourquoi vous m'accusez ?»« Parce que je devine la vérité, » reprit la bonne femme. « Si tu es innocent, pose ta main sur cette croix d'or que je porte à mon cou et jure par le divin fils de la Madone que tu n'étais pas du complot. »«
Mais je jure que je vois aujourd'hui cet étranger pour la première fois de ma vie, » répondit Chichio.
C'est pas ça qu'on te demande. Il faut jurer que tu n'étais pas du complot. Tu l'oses pas, tu es coupable. Oh là, honnête passant, arrêtez ce petit scélérat. C'est lui qui vient de blesser ce pauvre seigneur que vous voyez mourant.
Quelques passants se retournèrent au cri de cette femme, mais ils s'éloignèrent bien vite en murmurant tout bas les mots d'accidente et de tagliada.
« Puisque le ciel le permet, » reprit la femme, « va-t'en donc et sois maudit, que le remords empoisonne ton sommeil, ton pain et l'air que tu respires. »
« Mais il n'est pas en votre pouvoir de répandre tant de poison, » répondit Chichio.
Et le petit chevrier partit en courant. Notre héros avait de grands défauts, comme le lecteur a pu s'en convaincre. C'était un vrai montagnard, mais sans éducation, obtus, sans des préjugés, violent, dans ses passions et facile à égarer au moyen de sophismes. Avec l'idée fixe de venger sa mère, il aurait vu égorger, sans s'émouvoir, 100 000 soldats napolitains, et généralement tous les individus qu'il appelait athéniens ou carthaginois, sans savoir au juste ce qu'il entendait par ces deux mots. Mais au fond, il avait le cœur honnête. La scène de la taillade l'avait remué profondément. Les paroles de la bonne femme achevèrent de porter le trouble dans son esprit. Et comme il passait aisément d'un extrême à l'autre, l'image du blessé inondé de sang le pénétra de terreur et de pitié. Les clameurs de la ville lui semblaient autant de malédictions lointaines, comme si ses crimes eussent ameuté le monde entier contre lui. Il fuyait au hasard, à perdre haleine, épouvanté par le bruit de ses pas et le galop de l'innocente Guetta. Il courut ainsi jusqu'au cabaret del Falcone.
mais la compagnie de ses amis, les brigands, au lieu de lui rendre le calme, ne fit qu'augmenter son dégoût et ses remords. « Arrive donc, petit paresseux !» lui dit le chef au sous-pied. « Je craignais que la police ne dût confisquer, ce qui m'aurait obligé à des démarches fâcheuses. »«
Épargnez-vous les démarches en ma faveur ?» répondit Chichio. « Je viens vous déclarer que je me sépare de la bande. »«
Un moment !» reprit Don Zeffirino. « Il est écrit dans nos statuts qu'une fois engagé dans notre société, on n'en sort plus sans le consentement du chef. Et je n'accorde mon consentement que pour trois motifs. Le mariage, la retraite au couvent ou l'embarquement sur un navire. Marie-toi, fais-toi moine ou matelot, sinon tu resteras parmi nous.
« Mais je ne connaissais point vos statuts, répondit Chichio. Je n'ai prononcé aucun serment. Je suis libre et je vous quitte.
Mon mignon, dit l'homme au sous-pied, la révolte ici est punie par le stylet.
Et moi je me défends avec ma carabine.
Chichio saisit en effet sa carabine et se retira dans un angle de la salle, l'arme haute, le pied gauche en avant et le jarret tendu. Don Polyphème éclata de rire. « Que pensez-vous, dit-il, de nos petits montagnards, seigneur Zeffirino ? Regardez cet air sombre et résolu. Ne vous fiez pas à sa jeunesse et à son ingénuité. Oh, il vous tuerait comme un lièvre au gîte. Abaisse ton arme, Chichio, et ne l'emporte pas. Je ne souffrirai point qu'on te moleste. Tu veux être libre, tu le seras. » Je t'avertis seulement que tu perdras ta part de butin déposé entre les mains des paysans de Leonforte.
Bon, je vous l'abandonne sans regret, répondit Chichio.
Il faut aussi promettre, avant de nous quitter, de ne jamais nous vendre ni déposer en justice contre nous.
Oh, par là, me vénéré de Saint Caraccioli, je jure de ne pas vous trahir, et quand même on rétablirait pour moi seul l'ancienne torture, je laisserais mettre mes chairs en lambeaux plutôt que de dire un mot de ce que j'ai vu et entendu dans votre compagnie.
La torture fut abolie en Sicile par le marquis de Caraccioli en 1780, et pour cette raison, il est considéré comme un saint.
« Cela suffit, reprit Polyphème. Si quelqu'un doute de ta parole, il aura affaire à moi. » Tu peux aller où tu voudras. »
Chichio fit un salut et sortit. Le danger qu'il venait de courir ayant excité son courage, il ne s'effraya pas à l'idée d'être sans asile et sans amis dans une ville qu'il ne connaissait point. Une nuit en plein air n'était pas une nouveauté pour lui. Après l'heure de la rosée, il n'y a point d'alcôve où l'on soit mieux que sous le ciel de Palerme. Chichio vit d'ailleurs, dans les rues du Borgo, quantité de gens étendus sur des dalles et qui dormaient profondément. Il chercha donc un recoin isolé pour s'y établir avec sa chèvre. Un banc de bois s'ouvrit à lui devant la porte du couvent dell'Estimate. Il s'y étendit sur le côté, en faisant un oreiller de son bras droit et une couverture de sa veste, et il ferma les yeux après avoir récité sa prière. Mais les émotions de la journée avaient échauffé ses esprits. Le sommeil s'approchait, amené par la fatigue, et s'enfuyait aussitôt, repoussé bien loin par l'image horrible de l'étranger nageant dans son sang. « Dieu puissant !» s'écria Chichio. « C'est dans ma conscience que le Temperino a porté le coup funeste. La malédiction de la bonne femme pèse sur ma tête. » Je suis empoisonné dans mon sommeil, mon pain et l'air que je respire. Malheur à moi, si je ne trouve un moyen d'apaiser le courroux du ciel. Ma chère Angelica n'épouserait pas un garçon dévoré de remords. Amour, conseille-moi.
J'entends l'accent de Syracuse,
dit une voix nasillarde.
Qui donc cela monte ainsi dans l'obscurité?
Ciccio vit approcher de lui un vieux père capucin qui sortait du couvent des stigmates. « C'est moi, Ciccio le chevrier, répondit-il. « Oh, mon père, ayez pitié d'un compatriote et dites une prière en faveur d'un pécheur au désespoir. »
« Je te reconnais, mon enfant, »
dit le moine.
« Tu m'as fait bien du bruit pour un garçon si jeune encore. Calme-toi. J'ai ouï parler de tes malheurs et j'y veux porter remède. Au lieu de courir le pays et d'aller parmi les voleurs, il fallait rester dans notre chère Siragusa et venir demander un asile et des consolations au couvent des Capucins. Bon, mais au diable le passé, songeons au présent. Tu es un pécheur au désespoir, dis-tu. Eh, mon garçon, je le crois bien, il n'y a rien comme la belle étoile et la faim pour rendre lourds les péchés. Que ton estomac s'emplisse d'un bon souper, que tes membres s'étendent dans un bon lit, et tu me donneras ensuite des nouvelles de ta conscience. Viens avec moi, mon démure, quittons cette grande ville et tout en cheminant, tu me raconteras tes infortunes. »
Ciccio se leva de son banc et partit avec le capucin. Il lui fit en marchant le récit fidèle de ses aventures depuis la rencontre du notaire Mastandré dans les eaux de la Napo jusqu'à la Taïade inclusivement.
« Saint Christophe !» s'écria le moine, « ayez pitié de nous. » Une taillade au visage, deux Anglais désalisés. Mais ce ne sont plus de simples péchés, mon fils, ce sont des crimes. Il faut rompre avec cette vie-là, sans quoi tu es perdu dans ce monde et dans l'autre.
Hélas, mon père, répondit Ciccio, je sens bien que vous avez raison, et je voudrais en effet changer de vie. Mais comment reconquérir ma bonne réputation? Comment faire pour me réconcilier avec la justice? En m'accusant d'un crime dont j'étais innocent, on m'a forcé à devenir criminel.
Écoute-moi, mon garçon, reprit le capucin. Avec une absolution du confesseur, la paix sera bientôt signée entre le ciel et ta conscience, puisque je te vois touché d'un repentir sincère. La clémence du Seigneur va vite en besogne quand on implore du fond de son âme. Oh, si les hommes étaient aussi généreux que le bon Dieu, on s'en trouverait mieux sur cette terre malheureuse. Cependant, dis un mot et je tâcherai d'obtenir ta grâce de la justice humaine au moyen de protecteurs puissants. Fais-toi capucin. Entre dans notre excellent couvent dont le séjour délicieux et les beaux jardins sont l'ornement de notre chère Syracuse et tu es sauvé.
« Impossible, mon père. Je n'ai pas la vocation nécessaire. »«
C'est que tu ne sais pas, mon enfant, combien la vie est douce pour un honnête religieux. Notre règle n'est point aussi sévère qu'on l'imagine. Il n'y a pas de porte à notre couvent, ce qui prouve que ce n'est pas une prison. Nous voyageons à tour de rôle par toute la Sicile. Nous recevons l'hospitalité la plus cordiale en tout lieu. » Nous faisons souvent bonne chère, quelquefois avec trop de gourmandise, mais le samedi arrive, nous allons à confesse, et si nous avons le bonheur de mourir un dimanche, le paradis s'ouvra de battant pour nous recevoir. Il n'y a d'effrayant que les maux dans notre ordre. Qu'importe la pauvreté, si l'on n'a besoin de rien, l'obéissance lorsqu'on ne vous commande rien de pénible. Quant à la chasteté, mon âge ne m'en fait pas une privation. Toi qui es jeune, réfléchis un moment. Et si tu es homme de bon sens, reconnais que les rapports avec la femme ne sont qu'une source de maux et de regrets amers.
Mon père, répondit Ciccio, je ne suis pas un libertin. Si j'hésite à faire le vœu de chasteté, c'est que j'ai jeté les yeux sur une femme de qui j'attends le bonheur de ma vie. Je porte en moi deux passions qui ne peuvent se cacher sous une robe de moine, la haine et l'amour. Je déteste les meurtriers de ma vieille mère, je ne puis leur pardonner.
et j'aime de toute mon âme la divine fille de Mastandré. Arrachez de mon âme ces deux passions et je suis à vous.
Eh bien, mon enfant, tu es à nous, car ces deux passions sortiront de ton cœur dès demain. Cela est aussi sûr qu'il est vrai que je suis le père Christophe.
Ô ciel, s'écria Ciccio, vous m'avez-vous vanté? Mais que va donc devenir ma tendresse pour Angelica? Qu'est-il donc arrivé de funeste?
Nous en reparlerons demain.
Mon père, dit le petit chevrier, pour que je sois à vous demain, il faut donc que mes espérances soient ruinées et que mon cœur se brise. Parlez, achevez-moi tout de suite. Ma maîtresse est-elle morte ou mariée? Ne m'aime-t-elle plus? Oh, sauveur des hommes, s'il en est ainsi, je ne veux point d'une robe de laine pour y envelopper ma douleur. Je ne veux point d'une cellule et d'un lit. Donnez-moi un linceul blanc et une fosse pour y dormir du sommeil éternel.
Chut! Dit le père Christophe.
Le bon Dieu n'aime pas qu'on lui fasse de ces apostrophes véhémentes. Heureusement, il ne t'écoute pas. Regarde ces milliers d'étoiles, cette nuit splendide. Admire le Créateur et respecte en toi-même son sublime ouvrage.
En discourant ainsi, le Capucin et son compagnon arrivèrent à Saint-Philippe de Néry, petite paroisse située hors des murs de Palerme, à peu de distance de la porte Carini. Le moine tira la sonnette du presbytère. Une vieille servante vint ouvrir et gronda le père Christophe en disant que le souper serait froid. Le curé reçut avec bonté le petit chevalier, fit mettre un couvert de plus pour lui et demanda le macaroni. Ciccio n'eut pas plus tôt une large position de pâte et deux verres de vin dans l'estomac qu'il se sentit moins exalté. Le jovial père Christophe, l'ayant mené dans une petite chambre que la servante venait de préparer, il se coucha docilement, sans oser se plaindre, et comme il le trouva endormi, « Dieu bon, dit-il avec attendrissement,
si jeune encore et déjà si malheureux, donnez-lui assez de force pour supporter ce qu'il attend demain. » Et inspirez-moi les moyens de consoler cette pauvre âme.
Chapitre 14. À peu de distance de Palerme, sur la route de Montréal, est une belle maison de campagne dont on aperçoit les toits à l'italienne au milieu d'un bouquet d'arbres et dans le site le plus riant du monde. Des rosiers grimpants s'élèvent le long des murs jusqu'à la hauteur du second étage. La façade est ornée de sculptures et l'entrée, en forme de portique, présente l'aspect riche et séduisant de ces antiques séjours où les Lépides et les Cicérons venaient se reposer du tracas des affaires. Cependant, une impression pénible gâte un peu le charme de cette villa. Des grillages sont placés à toutes les fenêtres et la porte hermétiquement fermée oppose de larges plaques de tôle au regard des curieux, comme si un jaloux gardait avec vigilance dans cette prison fleurie quelque Vénus ennuyée. C'est à cette maison que le bon père Christophe et Ciccio vinrent sonner vers 8 heures du matin. Le concierge leur ouvrit la petite porte et les introduisit sous le portique, en disant aux capucins de se promener dans le parterre, tandis qu'on irait appeler le docteur. « Ce palais, demanda Ciccio, appartient donc à un médecin ?»«
Oui, mon fils, répondit le moine, un médecin qui, pour habiter un palais, n'en est pas moins un homme simple et modeste. »«
Mon père, dit le petit chevrier, que signifient ces chaînes de fer pendues à la muraille? Voilà un singulier ornement dans une villa de luxe.
Mais si tu savais lire, répondit le capucin, tu verrais que l'inscription placée au-dessous de ces chaînes contient ces mots
La science et l'humanité les ont brisés.
Ah, le docteur est donc un bienfaiteur des malheureux, comme le grand Caraccioli.
Précisément, mon fils, il a aboli certaines tortures auxquelles on appliquait encore une classe particulière de pauvres gens.
Et qui sont ces pauvres gens?
On te l'apprendra tout à l'heure.
Le père Christophe emmena Ciccio dans le jardin. Quelques personnages, bizarrement vêtus, se promenaient dans les allées, un livre à la main. D'autres, assis sur des bancs, paraissaient plongés dans la méditation ou la tristesse. D'autres encore regardaient les deux visiteurs d'un air inquiet ou hébété.
« Ce sont donc des philosophes ?» demanda Ciccio. « Non, ce sont des malades, » répondit le moine. Au milieu d'un bosquet de grenadiers était un théâtre en plein air avec un demi-cirque de gradins en marbre blanc destiné à recevoir les spectateurs.
« Ah, on joue donc la comédie pour divertir les malades, » dit Ciccio.
« Ils sont eux-mêmes les acteurs, » répondit le capucin. « C'est un des moyens qu'on emploie pour dissiper leur mélancolie. »
Sur ces entrefaites arriva le docteur. Il paraissait âgé de 40 ans. On voyait sur son visage et dans ses yeux animés l'intelligence, la bonté, l'énergie et les qualités opposées qui caractérisent le savant profond et l'administrateur habile. Il avait une de ces constitutions robustes qui se reposent d'une fatigue par une autre. La vie active du praticien, en faisant un contraste avec les travaux du cabinet, le préservait des ravages dont la science accable ses amants trop passionnés. Aussi n'avait-il pas un cheveu blanc sur la tête. Le père Christophe prit à part le docteur. Ciccio les vit causer ensemble et tournaient leur regard de son côté, comme s'il eût été le sujet de leur conversation. Au bout de 5 minutes, le docteur appela le petit chevrier. « Mon ami, lui dit-il, tu es ici dans une maison d'aliénés. Ce que tu as pris pour des philosophes ne sont que de pauvres diables dont la raison est égarée. Tu n'as peut-être jamais vu de fou. Il faut que tu saches ce que c'est. Viens avec moi dans le quartier des hommes. » Ce directeur introduisit ses deux hôtes dans une vaste cour entourée de cellules dont la plupart étaient ouvertes. Au milieu de l'une des cellules était un homme de 50 ans, assis sur un banc et qui pétrissait de la mie de pain entre ses doigts avec une application extrême. « Celui-ci, dit le docteur, est un père de famille qui avait amassé en travaillant une dot pour sa fille aînée. On lui a volé cette dot et il est devenu fou de douleur. Sa manie consiste à fabriquer avec du pain des pièces de monnaie qu'il croit d'une valeur égale à celle de l'or. Le fou avait levé les yeux et caché ses pièces dans une corbeille d'osier à l'approche des étrangers. « Jean, lui dit le médecin, continue ton ouvrage, ne te dérange pas, mon ami. Tu sais que le roi doit venir te voir un de ses jours pour s'entendre avec toi sur la réforme des monnaies du royaume. Aussitôt que ton trésor sera au complet, je ferai dire à sa majesté que tu es à ses ordres. Quand ce beau jour arrivera, tu deviendras riche, mon cher Jean. Tu sortiras d'ici et tu iras marier ta fille qui attend avec impatience ton retour à la maison. »
« Le fils ne se marie plus, » répondit le fou d'un ton bourru.
« Avec chacun de mes malades, » dit tout bas le docteur, « je prépare d'avance une crise violente dont je fais naître ensuite l'occasion quand le moment me paraît favorable. La folie du pauvre Jean sera difficile à guérir parce qu'elle est calme et enracinée. Je vais vous montrer un autre sujet plus exalté de qui j'espère davantage. Le docteur ordonna au gardien d'ouvrir la cellule suivante et de demander avec respect au personnage qu'il habitait s'il lui plaisait de recevoir deux étrangers. « Vous allez voir, reprit le médecin, l'empereur du Mogol en négligé. » La contradiction et les mauvais traitements avaient augmenté son mal. Quand on me l'a amené, je me suis bien gardé de lui nier sa qualité d'empereur. Je me suis prosterné à ses augustes genoux, et maintenant je possède toute sa confiance. L'instant approche où je lui dirai nettement qu'il n'a point de royaume et qu'il doit en croire son vizir et son ami. On revint annoncer que le monarque voulait bien donner audience aux étrangers. La porte de la cellule s'ouvrit, et Ciccio aperçut un petit vieillard assis sur une natte de jonc. « Puissant empereur, dit le médecin en saluant à la mode orientale, deux voyageurs européens qui passent dans ces contrées ont désiré vous contempler dans votre gloire, afin de pouvoir assurer à leurs compatriotes qu'ils ont joui du bonheur d'approcher de votre personne. « Je reçois leurs hommages avec plaisir, répondit le fou. Je regrette amèrement de ne pouvoir leur montrer mes plus beaux habits. Mon cher vizir, ayez soin de faire punir ce domestique maladroit qui vient de renverser ma cruche d'eau sur ce tapis de velours cramoisi. On lui donnera 100 coups de bâton, reprit le médecin. Mais une chose m'étonne dans le discours de votre majesté. Si elle est assise sur un tapis de velours, comment peut-elle se servir d'une simple cruche au lieu d'un vase d'or ? Je ne sais, dit le fou. Il est certain que ceci est une cruche, ne le vois-tu pas comme moi ? Sans doute, c'est bien une cruche, en effet, et il me semble que ce tapis n'est qu'une natte de jonc. Dieu pourrait avoir raison, j'y prenais pas garde. Peut-être est-ce du jonc, alors, et non du velours cramoisi. Que votre majesté ne s'en tourmente pas. Je lui expliquerai ce mystère demain, en lui faisant sous le plus grand secret une importante révélation. Il y a du mieux, ajouta le docteur à voix basse. Demain, je tenterai de lui ôter sa couronne et j'espère qu'il prendra doucement la chose. En attendant, vous allez voir un autre personnage plus curieux. C'est un jeune patriote qui a donné beaucoup de soucis aux gens du roi pendant les émeutes de 1837. Il a commandé un détachement d'insurgés. On l'a pris les armes à la main et jeté dans une prison si dure et si cruelle qu'il y est devenu fou. Sa folie l'a du moins sauvé de la peine de la mort. Mais par un effet singulier de la maladie, ce malheureux croit avoir perdu la tête sur l'échafaud. Un délire qu'il eut dans son cachot lui représenta la scène de son exécution capitale avec tant de vivacité que l'image en est devenue pour lui une chose réelle. Après avoir essayé par 100 moyens divers de lui ôter ce souvenir terrible, j'ai enfin imaginé, ces jours passés, un traitement tout à fait matériel qui me paraît excellent. Mon homme est sur le point de retrouver cette tête que la hache a tranché il y a 5 ans. On ouvrit la cellule où demeurait le fou décapité. Ciccio et le père Christophe virent avec étonnement que cet homme portait un casque en plomb, solidement attaché sous le menton par un cadenas fermé. Cette coiffure avait un poids si considérable que le pauvre jeune homme cherchait à soutenir sa tête en l'appuyant contre les murs. « Eh bien, Don Paolo, lui dit le docteur, comment allez-vous ce matin ?»« Très mal, répondit le fou, je souffre beaucoup. »« Où est le siège de la douleur ?»« Dans les muscles du cou, ça vient sans doute de ma blessure. » »« Et cette douleur ne s'étend pas plus haut que le cou ?» « Si fait, oh, elle monte jusque dans la tête. »« Vous n'y songez pas, mon cher. Comment pourriez-vous souffrir de la tête si vous avez été décapité en 1857 ?»«
Apparemment, c'est une de ces douleurs factices que l'on croit ressentir dans un membre coupé.
Ah oui, sans doute, il y a quelque chose comme cela.
Par grâce, docteur, ne pouvez-vous m'ôter ce poids énorme que j'ai sur la tête?
Vous parlez encore de votre tête, tâchons de nous entendre. Vous l'a-t-on coupée, oui ou non?
Je veux dire qu'on m'a mis je ne sais pas quoi de lourd sur les épaules.
Mais gardez ce que vous y avez, mon ami. Dans 3 ou 4 jours, vous vous en trouverez bien.
Bien voilà un malade, ajouta le médecin, que je considère comme guéri. Mais ce sujet-là sera pour moi une source perpétuelle de chagrin.
Depuis 5 ans qu'il est entrant de mes mains, je l'ai laissé languir sans pouvoir imaginer le moyen qui devait le sauver. Et pourtant, vous voyez combien ce moyen curatif était simple. Peut-on guérir de même tous ces autres malheureux? Ne s'agit-il que de savoir inventer le traitement spécial qui convient à chaque cas particulier? Est-ce par défaut d'intelligence que j'échoue? Cette idée est accablante. Oh, mon Dieu, donnez-moi le génie de Galilée pour surprendre vos secrets. Je ne les exercerai que dans la pratique de l'art le plus louable et le plus pur. Ciccio et le père Christophe visitèrent toutes les cellules et virent plusieurs autres espèces de fous. Lorsqu'on eut achevé le tour du quartier des hommes, le docteur posa sa main sur l'épaule du petit chevrier.
Mon garçon, lui dit-il, je vais à présent me servir de toi pour mesurer jusqu'où va le degré de folie de l'une de mes pensionnaires. Une jeune fille, belle comme un ange, a été contrariée dans ses amours. Un père stupide a imaginé des mensonges odieux pour la guérir d'une passion honnête dont le mariage était le seul remède. Alors la pauvre fille s'est enfuie de la maison paternelle, et à ce retour on l'a maltraitée, et on lui a fait tant de reproches et d'affronts, tant d'autres mensonges lui ont été dits, que la tête lui a tourné. Aujourd'hui elle n'est plus mezza vita, elle est folle tout à fait, et son père l'a amenée de Syracuse pour la mettre entre mes mains.
« C'est Kangia !» s'écria Ciccio en se couchant sur le sable.
« Du courage, mon garçon, reprit le médecin. Tu as vu quel soin je prends d'étudier mes malades. Il y en a peu d'incurables. Nous tâcherons de te rendre ta maîtresse. Ce n'est pas le moment de la pleurer. Nous devons songer à la guérir. Et tu vas m'y aider. »
Ce n'est pas encore la mesure de la folie de Kangia. Nous allons te présenter à elle. Si ta maîtresse te reconnaît, ce sera bon signe et je réponds de sa guérison. Si elle ne te reconnaît point, j'en augurerai mal. Mais il ne faudra pas encore désespérer pour cela.
Oh, docteur, s'écria Ciccio, vous ne pensez qu'à votre science? Et parce que je ne suis pas fou, vous me brisez le cœur sans pitié.
Cela est un peu vrai, dit le père Christophe.
Et vous, reprit Ciccio, avec votre couvent que vous mettez au-dessus de tout, vous me verriez sans regret, plus misérable encore, pourvu que ma douleur s'enveloppât de votre froc de capucin.
Ne t'exalte pas, mon garçon, dit le médecin. Je reconnais la justesse de tes reproches. L'esprit humain est borné. C'est beaucoup pour moi que de me donner tout entière à mes malades. Cependant, je puis t'offrir une pensée consolante. Les desseins de la Providence sont impénétrables. Le malheur de Kangia a vaincu l'orgueil et la sottise de son père. Nous dirons à Mastandré que le seul moyen de sauver sa fille et de te l'accorder. Qui sait s'il ne sortira pas de tout cela quelque chance favorable à tes amours? Tu es jeune, et quand le cœur se brise à ton âge, il sera commode facilement.
Allons, point de faiblesse. Relève-toi, sois homme. Seconde-moi et marchons.
Ciccio tremblait de tous ses membres. Il suivit le docteur comme un condamné qu'on mène au supplice, et le bon père Christophe, pâle de crainte et d'émotion, ressemblait à César, l'aumônier des prisons, chargé d'assister le patient. Au moment d'ouvrir la porte du quartier des Fenvam, le docteur aperçut Mastandré qui accourait tout essoufflé. Une grimace de douleur crispait sa large face et produisait le plus étrange contraste avec l'indélébile expression de la sottise et de la vanité. « Ne vous pressez pas tant !» lui cria le médecin avec brusquerie. « Vous ne verrez point votre fille aujourd'hui. « Mais je veux savoir ce qu'on fait de mon enfant !» dit le notaire. « Tout beau, signor !» reprit le docteur. « Nous ne sommes pas à Syracuse. Je commande seul ici. Votre présence pourrait nuire à mes opérations. » Le père a mal usé de son autorité, qu'il reste à la porte. Quand votre fille sera guérie, vous serez libre de la rendre folle une seconde fois, par vos mauvais traitements. Hélas, dit Master André, en cherchant au bord de sa paupière une larme qui ne voulut pas sortir. Ne savez-vous pas mon repentir et mon chagrin? Seigneur notaire, je ne fais pas grande attention aux paroles inutiles. Vous engagez-vous à donner votre fille à Ciccio? De tout mon cœur, répondit Mastandré. Le médecin tira de sa poche un crayon et du papier. Il nous faut une promesse par écrit, dit-il, et je la signerai comme témoin ainsi que le père Christophe. Mastandré prit le crayon et il écrivit, sous la dictée du médecin, une promesse de mariage en bonne forme. Le docteur et le capucin signèrent, et Ciccio mit le papier dans sa poche. « À présent, reprit le médecin, suivez-moi tous trois et obéissez fidèlement à mes ordres. » Conclusion. Les femmes de la Sicile ne se piquent pas de dissimulation comme les hommes. Elles ne sont pas moins passionnées qu'eux, mais au lieu d'enfermer en elles-mêmes ce qu'elles sentent, elles le témoignent au contraire avec une expansion et une vivacité extrêmes. C'est pourquoi Ciccio et ses compagnons ne retrouvèrent pas dans le quartier des femmes le silence édifiant qui régnait dans l'autre partie de la maison. La plupart des pensionnaires se querellaient entre elles ou avec les personnes chargées de la surveillance. On entendait un concert de cris, de chansons, de rires et d'injures. Le docteur commença par rétablir la discipline, et après avoir prié ses hôtes de l'attendre, il entra dans la cellule où demeurait Cangia. Au bout d'un quart d'heure, il revint avec une mine consternée. « Tout va mal, dit-il. La jeune fille n'a pas la moindre lucidité. Sa cervelle est dans un tel état de confusion que pas un souvenir n'y peut reprendre sa place. Approchez-vous et voyez si vous réussirez mieux que moi. » Ciccio s'avança doucement jusque sur le seuil de la cellule et détourna la tête avec effroi tant le visage de sa maîtresse était méconnaissable. Une pâleur maladive avait remplacé le velouté charmant de la jeunesse et de la santé. Ce n'étaient plus ces belles joues fraîches, ce regard angélique, ce sourire agaçant qui avait enflammé le petit chevrier sous le myrte centenaire de Syracuse. Ciccio n'avait plus devant les yeux qu'une pauvre fille sans beauté, sans physionomie, dont le regard morne et les traits décomposés annonçaient les ravages de la folie. Cangia s'occupait à mettre en ordre le mobilier de sa cellule et ne faisait aucune attention aux visiteurs.
Sa manie, dit tout bas le médecin, paraît être depuis quelques jours le goût de la symétrie. Mon cher patron, demanda la jeune fille, ne trouvez-vous pas que les meubles de cette chambre sont rangés comme il faut ?
Oui, mon enfant, répondit le docteur.
Eh bien, pourquoi donc a-t-on décidé que je n'étais plus bonne à marier ? N'est-ce pas pour me nuire dans l'esprit du roi, dont le fils est mon fiancé, ou je serai confondre les imposteurs ?
Ils sont déjà confondus. Ne vous fâchez pas, et regardez un peu ces trois personnes que j'ai amenées ici. Reconnaissez-vous Master André, votre père ?
Master André, répondit Cangia, s'est noyé dans le Porto Grande à Syracuse. On ne m'en fait point à croire. Cet homme-ci est un cuisinier que l'on m'envoie.
Et ce garçon-là, ne voyez-vous pas que c'est Ciccio, votre amant ?
Je sais à qui je parle. C'est le facchino qui doit porter mes bagages. Mais voici un homme d'église. Ne serait-ce pas le confesseur du roi ?
Lui-même,
répondit le capucin. Ah, mon père, s'écria Cangia en se jetant à genoux, vous venez à propos pour m'arracher à mes bourreaux. On m'a battu, injurié, enfermé comme une voleuse. Si cela dure, j'ai pas longtemps à vivre. Emmenez-moi, au nom du ciel, ne me laissez pas dans cette prison.
Vous n'êtes pas en prison, ma fille, répondit le capucin. Je ne puis vous emmener.
Mon père, je n'ai plus de force. Je suis perdu si vous m'abandonnez. Retournez à Naples. Dites au roi que je le supplie de me secourir. Dites surtout à l'héritier du trône, au prince qui a demandé ma main, que je l'adore, que je suis à lui pour la vie, que ma tendresse est immense comme le monde, mais qu'elle sera bientôt ensevelie avec moi. 8 jours encore, c'est le délai que je puis supporter. Passé cela, je dormirai dans la terre et la pluie, en ruisselant sur mon corps, éteindra le feu qui dévore mon pauvre cœur.
Point de scène pathétique, interrompit le docteur. Point de cris ni de pleurs. Éloignez-vous tous. Le médecin enferma la fille de Master André dans la cellule. Aussitôt, Cangia monta sur la serrure de la porte et poursuivit ses discours en sortant ses bras et sa tête par une lucarne. 2 ruisseaux de larmes coulaient sur ses joues et elle tendait ses mains suppliantes vers le père Christophe en poussant des sanglots lamentables.
« Ingrate Cangia, lui dit le petit chevrier. Tu as donc oublié Ciccio, ton amant, et l'aimable Guetta, ma fidèle et servante chèvre jaune ?»
La jeune fille regarda notre héros d'un air de mépris.
« Ciccio ? » répondit-elle. « J'ai cru l'aimer autrefois, mais mon cœur s'était trompé, je ne l'aime plus. »
À ce mot cruel, prononcé avec l'accent accablant de la vérité, Ciccio fit 2 pas en arrière comme un soldat frappé d'une balle. Il posa une main sur ses yeux, comme le gladiateur mourant, et par un effort prodigieux de l'orgueil offensé, il releva la tête en s'écriant « Je suis à vous, mon père. » Partons pour Syracuse. 3 mois après, notre héros était assis sur un banc de gazon dans le magnifique jardin des Capucins de Syracuse, situé sur le terrain de l'antique Acradine. Les formes élégantes du jeune novice se perdaient sous les plis de la robe de laine brune. Déjà, les habitudes de la vie contemplative avaient donné à son visage une expression grave et solennelle. La fidèle chèvre jaune broutait l'herbe sous les bosquets de citronniers, en personne satisfaite du régime claustral. Le père Christophe, appuyé contre un palmier, regardait Ciccio d'un air inquiet et préoccupé.
« Mon fils, dit le moine en hésitant, j'ai des nouvelles importantes à te communiquer. J'arrive de Noto, où j'ai remué ciel et terre en ta faveur. Oh, j'y ai dépensé autant de paroles que Pierre l'ermite a prêché la croisade. Un évêque, deux curés et le supérieur du séminaire ont plaidé ta cause auprès des autorités civiles. Nous avons réussi, ton dossier a été brûlé. Tes fautes sont oubliées pour deux motifs que j'ai su faire valoir. Le premier est l'injuste accusation de vol qui t'avait poussé malgré toi dans leur dérèglement. Le second est la résolution que tu as prise d'expier tes erreurs sous la vie de notre ordre. Cependant, un événement imprévu va peut-être changer tes projets et m'obliger à de nouvelles démarches. Une lettre du médecin de Palerme m'apprend ce matin que ta maîtresse est revenue à la raison et à la santé. Mastandré reconnaît la validité de sa promesse de mariage et ne s'oppose plus à ton bonheur. Il dépend de toi d'obtenir tout ce que ton cœur a désiré.
« Il est trop tard, répondit Ciccio. Je n'ai plus de cœur. On me l'a déchiré. Je ne retirerai pas à Dieu ce que je lui ai donné, car ce serait lui manquer de parole, comme d'autres ont fait envers moi. Je suis capucin parce que j'ai voulu l'être. » Le père Christophe pressa les mains du novice entre les siennes.
« Mon fils, dit-il avec émotion, Dieu te tiendra compte de ton abnégation. Mais ce n'est pas tout. En te voyant cette sagesse au-dessus de ton âge, j'éprouve un regret amer à t'apprendre le dernier sacrifice qu'on exige encore de toi. Des rumeurs populaires, des préjugés, des accusations de sortilège.
Quoi ? S'écria Ciccio. S'agit-il de ma pauvre chèvre ?
Hélas, oui, mon enfant. On l'a condamné à un supplice barbare afin de satisfaire de grossières superstitions. Elle sera brûlée en place publique.
Des sots ! Murmura Ciccio, qui, voyant que je leur échappe, veulent se donner le divertissement d'une mort. Ah, ce dernier coup est fait pour m'achever.
Le frère novice, oubliant la gravité de son nouvel habit, se mit à courir sur le gazon en appelant sa chèvre. Guetta, qui n'avait pas vu son jeune maître en belle humeur depuis 3 mois, bondissait avec joie. Elle n'avait pas, comme les hommes, le don fatal de la prévoyance et ne soupçonnait point qu'on dût jamais l'arracher à son ami. Tous deux jouèrent comme des enfants, se poursuivant et se fuyant l'un l'autre. Ciccio feignait de s'endormir sur l'herbe, Guetta le touchait le bout de ses cornes pour l'éveiller. Et puis il recommençait à courir et la chèvre exprimait son plaisir par 1000 gambades.
Qu'ils sont plaisants, s'écria le capucin, et qu'on est heureux d'être jeune. C'est grand dommage de tuer cette innocente bête.
Ciccio interrompit tout à coup les jeux. Il embrassa sa chèvre en pleurant, et courut à la chapelle où il demeura en prière jusqu'au soir. À l'heure où les capucins rentraient dans leurs cellules,
Notre héros prit le père Christophe par la manche de sa robe et le pria d'entrer chez lui. « Écoutez-moi, mon père, dit-il. Demain, au point du jour, vous aurez soin de livrer ma chèvre aux assassins afin que je ne la voie plus. Ils m'ont tout enlevé jusqu'à mon amitié pour ce pauvre animal. J'ai perdu ma maîtresse. J'ai tenu entre mes bras ma vieille mère frappée mortellement. Je donne au ciel ma jeunesse. Je lui sacrifie mes passions, mes espérances, un avenir qui paraissait vouloir s'adoucir. Tout ce que j'avais de beau, de respectable dans le cœur me l'a sali, détruit, extirpé comme de mauvaises plantes. Mais je dois vous l'avouer, il reste encore une plante empoisonnée dont les racines sont indestructibles, ma haine pour nos oppresseurs. Il n'y aura ni grâce divine, ni pratique religieuse, ni étude, ni conseil qui puisse m'empêcher de la satisfaire si jamais l'occasion s'en présente. C'est une passion profonde que je prétends assouvir tôt ou tard. Si vous croyez qu'elle ne doit pas habiter sous la robe que je porte, dites-le sincèrement, car pour elle je serai forcé de déposer le froc.
« Mon fils, répondit le capucin, donne à cette passion un autre nom, celui d'amour de la patrie, et ne t'embarrasse pas de ce qu'on pensera ton froc. Il y en a autant sous le mien. Je n'aime pas moins que toi, la malheureuse Sicile. »
« J'entends bien, reprit Ciccio, mais vous, vous bornez à prier Dieu pour elle. Tandis que moi, je prétends faire davantage, je veux mourir pour la défendre.
Comment ? S'écria le père Christophe. Tu veux combattre sous cet habit ?
Ciccio souleva le matelas de son lit et montra sa carabine déposée dans cette cachette. Le bon capucin posa un doigt sur sa bouche pour recommander au jeune novice la discrétion et la prudence. Et il lui dit à l'oreille,
« Mon fils, le jour où tu reprendras cette arme, je marcherai à côté de toi, le crucifix à la main. »
Le novice posa aussi un doigt sur sa bouche, et depuis ce moment, le père Christophe et le frère Ciccio eurent souvent ensemble de longues conférences nocturnes, tandis que le reste du couvent dormait. Le notaire Mastandré ne se chagrina pas beaucoup du peu d'empressement du petit chevrier à faire valoir sa promesse de mariage. Cangia, au sortir de sa longue maladie, eut tant de peine à remettre en ordre ses souvenirs et ses idées que son amour pour Ciccio se trouva égaré. Un jeune avocat de Noto, qui plaida pour une famille de Syracuse, eut affaire au seigneur notaire et s'enflamma pour la fille de Mastandré. On eut garde de refuser à ce jeune homme la main de Cangia, car il avait de la fortune et de l'esprit de conduite. La romanesque jeune fille se maria par raison et par obéissance. Elle s'occupa de son ménage et vécut bien avec son mari. On m'a dit à Syracuse qu'elle avait eu des moments de tristesse qui rappelaient le temps où elle était Metsimutla. Cependant, j'ai su depuis que le ciel avait béni son union avec le jeune avocat en lui accordant deux beaux enfants. Les jours de mélancolie devinrent plus rares, et à présent, on peut considérer la belle Angelica comme une heureuse mère. Mastandré se félicite de ce beau résultat et continue à jouer à la bazzica avec son voisin l'ordinateur. Les autres personnages de cette histoire ont fini diversement. Malgré les hautes protections dont ils se croyaient assurés, le seigneur Zeffirino fut pendu avec son habit de velours et ses sous-pieds non pas à propos de la taillade qui ne fit aucun bruit, mais pour avoir déplu à la maîtresse d'un sous-intendant napolitain. Au sujet de la taillade, le consul général de France adressa une plainte à l'intendance de Palerme. Il n'obtint d'autre satisfaction que cette réponse. « Que voulez-vous ? C'est une affaire de femme. » Historique. Donc, Polyphème et ses amis dégoûtèrent par leurs exploits les étrangers de parcourir l'intérieur de la Sicile et ne trouvèrent plus d'Anglais à dévaliser. Ils s'ennuyèrent d'une vie de brigandage qui n'offrait plus de bénéfices et se convertirent par désœuvrement. Les dangers de la pêche du corail en barbarie leur fournirent d'assez d'émotions pour occuper leur esprit et ils s'embarquèrent sur des speronaires. Quant à la pauvre Guetta, semblable à l'âne de la fable, elle paya pour les fautes d'autrui. On l'accusa de toutes sortes de crimes dont elle ne sut pas se défendre. On la mena solennellement au bûcher, tambour battant. Elle mourut innocente et vierge comme Jeanne d'Arc. Mais son âme irritée ne pardonna pas aux hommes leur lâche injustice. Le fantôme de la chèvre jaune est devenu lutin des chemins et revient encore à cette heure épouvanter les passants dans les montagnes de Saint-Philippe d'Argyre en dansant des saltarelles infernales sur les rochers au clair de la lune. Un muletier de Messine, dont je fis la connaissance en avril 1843, m'a assuré que la rencontre de la chèvre jaune lui avait plus d'une fois porté malheur. Ce muletier me procura l'honneur d'être présenté à un brigand retiré du monde, et c'est de ces deux personnes dignes de foi que je tiens le récit qu'on vient de lire.